Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce Tour d'horizon du mardi 10 novembre 2015. Veuillez noter que le Tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, eh bien, trois sujets attireront notre attention. Les élections partielles du 9 novembre 2015, l'article de Mathieu Boccoté, la mononclophobie et la violence chez les filles. Eh bien, rapidement, les élections partielles hier ont donné gain de cause pour trois comtés au Parti libéral du Québec et à un comté au Parti québécois. Effectivement, Martin Ouellet du Parti québécois, dans René Lévesque, a eu gain de cause sur ses adversaires. Paul Busque du PLQ dans Beauce-Sud l'a remporté haut la main. Monique Sauvé du PLQ également a gagné son pari dans Fabre. Et Dominique Anglade dans Saint-Henri-Saint-Jacques a remporté également une victoire aux couleurs du Parti libéral du Québec. Auparavant, Dominique Anglade, elle était candidate pour la CAQ et elle a maintenant changé de parti et elle a été élue sous les couleurs du Parti libéral. Alors que lorsqu'elle s'était présentée pour la CAQ dans les élections antérieures, elle n'avait pas eu gain de cause. Maintenant, sur le plan politique, on pourrait dire que c'est, on dirait en bon québécois, c'est 4,30 sous pour une pièce, dans ce sens que, effectivement, dans ces quatre élections complémentaires, puisqu'il y avait quatre députés qui ont quitté leur poste, alors le premier ministre doit à ce moment-là relancer des élections et puis complémentaires dans ces comtés où est-ce qu'il y a des postes vacants. Et au départ, juste avant l'élection, il y avait trois comtés qui étaient représenté par les libéraux et un comté par le Parti québécois. Et c'est exactement la même couleur qu'on retrouve sur la carte électorale. Alors, dans René Lévesque, on a un péquiste. Et dans Beauce-Sud, dans Fabre, dans Saint-Henri-Saint-Jacques, eh bien, on a des libéraux. Alors, les grands perdants de cette élection-là, c'est la coalition Avenir Québec. Et c'est eux qui ont tiré de l'arrière. Et il me semble que le discours de leur chef, François Legault, ne passe pas. Quoi qu'il a des bonnes idées, comme dans tous les partis politiques. Hein. Chaque parti politique, s'ils se présentent, s'ils vont de l'avant, s'il y a des gens qui votent pour eux, c'est parce qu'il y a des bonnes idées à l'intérieur de chaque parti. Mais dans son cas, on dirait qu'il n'est pas en mesure de les vendre, ces bonnes idées-là. Alors, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, je voulais simplement faire un petit survol de cette actualité-là. Je voudrais m'attarder un peu plus sur la mononclophobie. Et oui, ça c'est du grand Mathieu Boccoté, ça, la mononclophobie. Il est bon pour définir des concepts puis mettre le doigt sur certains bobos qu'on retrouve dans notre société, spécialement dans la société québécoise. Eh bien, sociologue de formation, eh bien, c'est clair qu'il a souvent le mot juste pour analyser les Québécois. Donc, c'est quoi la mononclophobie? Puis de quoi parle son article qui est paru dans le Journal de Montréal aujourd'hui, qui est intitulé « La mononclophobie ». Alors, je vais vous lire quelques extraits, puis je vais commenter au fur et à mesure. Et alors, ce qu'il dit, de la xénophobie à l'homophobie, en passant par l'europhobie, la transphobie, l'andiphobie et l'islamophobie, nous avons transformé en maladie mentale ou en trouble psychologique n'importe quel désaccord avec l'idéologie dominante. Et je termine cette première citation-là. Eh bien, il met vraiment le doigt sur un bobo parce que dans notre société, spécialement la société québécoise, où est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir un débat en dehors du cadre actuel, en dehors du prétendu consensus social, dès qu'on sort de ce prétendu consensus social et qu'on est en désaccord avec l'idéologie dominante, eh bien, on est étiqueté comme étant déviant de cette idéologie-là. Et on ne peut pas avoir peur au débat puisqu'on dévie de cette idéologie-là. Et là-dessus, je trouve qu'il met le doigt dessus. Alors, il va poursuivre. Je cite un autre extrait de son article. « Alors, jouons le jeu. N'assistons-nous pas à une montée inquiétante de la mononclophobie? » Il va dire un peu plus loin, qu'est-ce que la mononclophobie alors? C'est l'assimilation de tout l'univers de la masculinité traditionnelle à la figure du mononcle. Et un peu plus loin, il va dire, et finalement, on comprend qu'un mononcle, c'est un homme non réformé par la bienséance néo-féministe. Et donc, à ce moment-là, le mononcle, c'est un peu cet homme, cet être masculin, qui va proférer des propos ou avoir des agissements qui ne correspondra pas, devrais-je dire, à l'idéal féministe. En gros, là, je paraphrase ce qu'il dit, j'explique ce qu'il dit. Et donc, vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Suivez-moi, restez à l'antenne encore pour quelques instants parce qu'il y a quelque chose de profond là-dedans. Il va dire un peu plus loin. Un peu plus, et on se dira qu'un mononcle, c'est un homme qui n'est pas devenu une femme. La révolution féministe était nécessaire, mais le néo-féminisme radical ne tolère pas qu'on le questionne. Il mononclise ses critiques. Et donc, c'est vrai dans cet espace-là où est-ce que, justement, comme il dit, les néo-féministes qui sont radicales, on ne tolère pas qu'on les remette en question, qu'on les questionne. Et il n'est pas en train de dire que le féministe n'a pas eu du bon. Il n'est pas en train de dire que la révolution féministe n'était pas nécessaire. Il dit lui-même dans son texte, la révolution féministe était nécessaire. L'égalité des hommes et des femmes, c'est nécessaire, vous le savez. Même Saint Paul dit en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Il y a une égalité. Dieu, à l'origine, il a créé l'homme, l'être humain, mâle et femelle, masculin et féminin. Il a créé les deux dimensions et ce sont ces deux dimensions réunies qui manifestaient à l'origine puis qui manifestent en certaines parties la gloire puis la ressemblance de Dieu. Maintenant, ce qui arrive, c'est que dans notre société, spécialement au Québec, comme je vous disais au début, on n'a pas le droit à avoir une voix dissidente. Beaucoup de nos auditeurs, qui sont des gens de foi ou des citoyens de bonne foi, qui partagent les valeurs de notre patrimoine judéo-chrétien, qui partagent les valeurs qui ont été établies, instituées, qui ont fait leur preuve au travers les siècles, vont justement parler sur la place publique, vont émettre des idées, des opinions et ça ne passera pas. Et si, par exemple, notre société établit des valeurs ou passe des lois qui vont à l'encontre de nos valeurs, eh bien, à ce moment-là, ça ne passe pas le test et on se fait critiquer sévèrement. Je me souviens, moi, quand j'ai présenté avec notre association d'église, un mémoire pour justement contester le fait que le gouvernement passe une loi pour régir l'euthanasie, passe une loi pour mettre fin à la vie aux gens qui sont souffrants, qui sont atteints de maladies chroniques ou incurables. Et je me souviens, une députée, on était assis, on était un panel de trois personnes, il y avait Michel Habib, qui était le directeur pastoral de notre association, et il y avait Mathieu Vincent, qui est un médecin urgentiste. Et une députée nous a posé une question. Elle dit « Oui, mais monsieur... » Elle m'a posé la question. Elle dit « Oui, mais monsieur, n'êtes-vous pas en train de vouloir imposer votre religion ou vos croyances à la population? » Et je lui ai répondu ceci. Et voyez-vous, ça, c'est un signe d'intégrisme idéologique. C'est un signe que, ici, lorsqu'on a une pensée dissidente, lorsqu'on sort du cadre, mais qu'on veut l'émettre sur la place publique, ça n'a pas sa place. D'où l'importance d'avoir une émission comme ça qui s'intitule « Le tour d'horizon ». Alors, savez-vous ce que je lui ai répondu? J'ai répondu « Madame, il y a bien des Québécois qui ne partagent pas nécessairement mes croyances. » Qu'ils n'ont pas nécessairement la foi en ce que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur et que c'est seulement par Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Ça, c'est vrai, ça. Mais il y a beaucoup de Québécois qui partagent mes valeurs, qui croient que, justement, donner la mort à quelqu'un qui est souffrant en fin de vie ne devrait pas être accepté dans notre société. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que, dans ce tour d'horizon, je veux vous amener une réflexion pour que vous soyez en mesure, chers auditeurs, de discuter. Je vous oblige pas d'être toujours d'accord avec moi. Il peut y avoir des petites nuances, des dissensions ou peut-être même des désaccords. Mais l'idée, c'est de lancer ces discussions pour qu'on puisse être à l'aise, nous, les gens de foi et les citoyens de bonne foi, d'être à l'aise, d'articuler, d'échanger, de discuter, de débattre de nos idées avec les gens de notre entourage, que ce soit en privé ou sur la place publique. Un autre sujet j'aimerais aborder avec vous parce que je vois que le temps file, c'est fou comment le temps file, spécialement quand on est en bonne compagnie avec vous, chers auditeurs. C'est un article paru dans la presse hier midi sur le site de la presse dans le dossier Vivre, Société. Et c'est écrit par une des journalistes de la presse qui cite et qui commente un livre de Jasmin Roy qu'il a publié récemment. Et le titre est un peu vulgaire, mais ça reste le titre et je dois le citer. Hashtag bitch, les filles et la violence. Pourquoi il utilise un mot vulgaire comme ça? Parce que justement, il met en valeur, il fait ressortir le fait que les filles se parlent vulgairement les unes contre les autres, les unes envers les autres. Et il va justement soulever, il va être touché, interpellé par la problématique qui est associée à la violence physique, la violence verbale qu'on peut retrouver entre les filles, spécialement en milieu scolaire. Et il va dire qu'ils vivent une pression extraordinaire, ces filles-là. Qu'est-ce qu'on dit? Puis il va recueillir des témoignages, il va faire une analyse, il va en sortir les grandes lignes. Et ce que les filles disent essentiellement, puis ce qu'il a constaté, c'est qu'il faut que tu sois gentille, mais pas trop. Tu peux être grosse, mais pas trop. Et puis, ce qui est remarquable, malheureusement, c'est que l'article va dire « Il n'y a rien de pire qu'une fille dans une école qui manifeste son assurance. On va dire qu'elle se trouve trop bonne et elle sera repoussée à cause de ça. » Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est encore dans la culture aujourd'hui. Et ce qui est important de retracer dans tout ça, c'est qu'il dit « Il y a l'ennui ». Et il y a aussi l'appartenance à un groupe qui donne un sentiment de sécurité, mais qui entraîne des comportements violents. Il y a cette recherche-là de s'identifier à un groupe. Et savez-vous à quoi je pensais? Parce qu'il y a d'autres éléments dans cet article-là qui m'ont fait réfléchir. Et je pensais justement à ce vacuum qu'on a laissé dans nos établissements scolaires, dans nos sociétés. Ce vacuum, ça s'appelle l'Église. L'Église a joué un rôle fondamental dans l'établissement de notre nation. Ça fait partie de notre patrimoine. Il y a eu des bons coups, il y a eu des mauvais coups. Et les Québécois ont rejeté l'Église parce que l'Église a fait des erreurs. Et ça, on ne peut pas nier qu'il y a eu des erreurs de la part de l'Église. Et il y en a eu chez les catholiques, mais il y en a eu aussi chez les protestants ou chez d'autres groupes. Mais les erreurs qui ont marqué le plus les Québécois, ce sont les erreurs qui ont été faites justement au 20e siècle, particulièrement juste avant la Révolution tranquille. Mais qu'est-ce qu'il dit justement, M. Roy? Il dit « Il faut changer les rapports humains, on est rendu là. Si tu décides de traiter de vieille vache quelqu'un sans aucune raison, et ce, devant ta fille, il y a un problème. Il faut avoir des adultes responsables et des modèles positifs. Pour régler le problème, il faut avoir des modèles positifs. » Et il va dire que auparavant, il y a quelques décennies, c'était la mère qui s'occupait de l'éducation des filles. Maintenant, puisque la femme, elle est davantage au travail, elle a moins le temps de s'en occuper. Et dans la réalité des cas, eh bien souvent, les maris ou les pères sont mal à l'aise. Pas dans tous les cas. Mais maintenant, il faut réinventer la cellule familiale pour offrir non seulement du support, de l'encadrement, mais également être un modèle inspirant pour ces filles-là. Mais qu'est-ce que l'auteur de cet article soulève? Elle soulève des chiffres assez inquiétants. 21% des filles sont auteurs de violences psychologiques comparativement à 13% des garçons. Le niveau de détresse psychologique est plus élevé chez les filles, 28% chez elles, 14% chez les garçons. 30% de jeunes disent avoir subi au moins une forme de violence de la part de leur partenaire amoureux. 25% en ont infligé. 30% des filles ont un surplus de poids au primaire et au secondaire, qui ont un surplus de poids au primaire et au secondaire ont été victimes de violences ou d'intimidation de la part de leur père. Et ce que Julie Sirois, qui est technicienne en éducation spécialisée, va mentionner pour sa part, elle a été avec les jeunes depuis 22 ans et elle va dire que la violence, elle est banalisée. Et que les filles sont de plus en plus violentes verbalement, mais aussi physiquement. Elles pensent que les adolescentes n'ont plus de repères, qu'ils n'ont plus de modèles solides et que certains d'entre eux parlent très peu avec leurs parents. Pour elles, c'est normal d'accepter toutes les demandes de gars. Elles ont besoin d'amour de manière démesurée et c'est pour ça qu'elles acceptent n'importe quoi. Savez-vous, mesdames et messieurs, et moi, ça m'a interpellé et ça m'a rappelé le rôle important de l'Église. Où est-ce qu'il y a une communauté, où est-ce qu'on va pouvoir entourer, manifester de l'amour, manifester une saine affection envers ces filles-là, avoir des modèles d'hommes et de femmes comme des moniteurs, des monitrices qui vont inspirer, qui vont être une source d'inspiration. Et ça, c'est le rôle de l'Église et c'est le défi qui nous attend ici au 21e siècle. Alors, si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à leblogueur@commercialericlantier.net. leblogueur@commercialericlantier.net. C'est déjà le temps de clore cette émission. Eh bien, je vous invite à être des nôtres demain ou ce soir à 20h05. Demain à 8h05 et à 20h05. Donc, nous sommes tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à 8h05 et à 20h05 pour un tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est également disponible sur le www.ericlantier.net. Le www.ericlantier.net. Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Je vous dis donc à demain.